Ce chiour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Benjamin, là, on allait voir à la question de Lior.
Alors, je voudrais savoir l'importance du Mikvé.
L'importance du Mikvé, absolument incompréhensible, tellement c'est haut, tellement c'est grand, tellement c'est important. Rabbeinu Ohari, donc la Kabbalah, et c'est le Rabbi Slam Bachol qui me l'a dit lui-même, donc un des grands de la génération, il a dit que ce que peut faire le Mikvé en pureté, aucune mitzvah ne peut faire. Je ne parle pas du mérite de la mitzvah. Je ne parle pas de l'impact de la mitzvah, je parle de la pureté que ça amène sur l'homme. Aucune mitzvah ne peut faire autant de pureté que le mikvé. Vous voyez, le mikvé pour beaucoup de choses. Un non-juif qui se convertit, il trempe au mikvé devant un tribunal rabbinique. Les ustensiles qui ont appartenu à un non-juif, s'ils sont faits de fer ou de métal, on doit les tremper au mikvé si on veut les utiliser. Même si le non-juif n'a jamais utilisé, c'est une question d'appartenance. Une femme qui a eu sa menstruation, même une fois dans sa vie, une petite goutte de rien du tout, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, elle reste impure toute sa vie. La relation avec elle est sanctionnée par le karet, retranchement de l'âme. Le Rambam dit, Maïmonide dit, tu n'as pas de sanction plus grave que cela, retranchement de l'âme. Les hommes, ce n'est pas obligatoire, mais c'est extrêmement conseillé. Un temps, c'est obligatoire, mais le peuple d'Israël n'a pas tenu le coup, donc c'était aboli, c'était une loi des Rabbanan.
Merci.
Il y a 2500 ans, que chacun qui avait une relation avec sa femme, ou une pollution, chacun qui avait en deux mots de la semence qui sortait, c'est une certaine impureté, il fallait tremper au mikvé pour se purifier. C'est pas obligatoire, mais extrêmement conseillé. Aujourd'hui, c'est pas obligatoire, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des mikvés chauffés comme on avait, ils avaient des grottes. Alors, en été, c'est sympa la grotte avec un peu d'eau. Mais aller en hiver, là, tu as choumoulé un avis, un nous élève ici, il va tous les vendredis tremper là-bas. Mais en hiver, bon, il faut être courageux. Donc, le peuple n'a pas tenu le coup. Aujourd'hui, qu'on a le mikvé chauffé, super sensationnel, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'ailleurs d'aller tous les jours au mikvé, celui qui peut, ça vaut la peine, ça purifie énormément. Mais pas aux dépens de la prière. Il y en a qui vont au mikvé, mais après ils ratent Kriyat Shema en son heure, ils font pas les korbanot, ils ratent la prière Bet Tzibour, ça c'est des bêtises. Il faut d'abord faire toujours ce qui est essentiel, la prière normale. Après tu rajoutes la minhag chassidut, ça veut dire la mesure de piété. Mikvé reste une mesure de piété, très importante, mais reste qu'une mesure de piété.
Ça n'annule pas les fautes.
Pardon ?
Ça n'annule pas les
fautes. Ça annule aucune faute. Ça purifie, ça purifie, ça purifie. Une fois qu'on est purifié, c'est plus facile de faire tchouva, c'est plus facile d'être, de percevoir Dieu, plus facile de faire tchouva, de faire les actions qui vont nous permettre d'effacer les péchés. L'aspect le plus important dont je vais parler peut-être, c'est celui de la nida. Parce que c'est vraiment l'application la plus importante du mikvé. Une des impuretés les plus graves qui existent, c'est de la nida. Une femme qui a une menstruation. Impureté, ce n'est pas maintenant qu'elle devient tout d'un coup méchante, ou bien, méprisable, chassé shalom. Quand on parle de pureté d'impureté, on parle de notion mystique. Pur signifie en fait branché avec Hachem. Impur signifie qu'il y a eu un débranchement. De quel type? Je vais expliquer tout de suite. Hachem, on ne sait pas ce qu'il est, mais ce que nous savons de ce qu'il a bien voulu dévoiler de lui-même, c'est qu'il est une source de vie. C'est la source de vie. Maintenant, Dieu a créé la vie et la mort. La mort, c'est un éloignement d'Hachem, un débranchement d'Hachem. Quand une femme, elle est Nida, qu'est-ce qui se passe? Pendant la période qui est avant Nida, il y a l'ovulation, les parois de l'utérus de la femme se remplissent de sang pour pouvoir recevoir éventuellement l'ovule qui a été fécondé et faire un petit bébé pendant 9 mois. S'il y a eu fécondation, ben Mazal Tov, un petit bébé va naître dans 9 mois. S'il n'y a pas eu fécondation, alors toutes les parois se désagrègent et le sang se met à couler, l'ovule sort et il y a une mort. C'est quoi une mort? Il y avait un potentiel de vie qui n'a pas été réalisé. Donc c'est une mort. Maintenant, plus un potentiel de vie grand n'est pas réalisé, plus le vide qu'il y a après, il est grand. Je prends une petite bouteille vide, je prends une grande bouteille vide, les deux sont vides. Mais lequel est le plus vide, si on peut dire? La grande bouteille, parce qu'elle a un potentiel d'être remplie beaucoup plus. Lorsqu'une femme a le potentiel de donner la vie à un être humain, c'est un potentiel énorme de vie. Lorsque le potentiel n'est pas réalisé, alors elle se branche pendant un certain temps à la mort. Ce temps-là, c'est le temps où il y a les saignements. Et après, la Torah oblige encore de rajouter 7 jours de propreté. Et bizarrement, on a découvert aujourd'hui que ça prend 7 jours pour que les muqueuses se cicatrisent complètement, qu'elles deviennent vraiment solides comme elles étaient auparavant. C'est pas pour ça que la Torah dit 7 jours, c'est parce que la Torah dit 7 jours que les muqueuses fonctionnent comme ça. La spiritualité fonctionne, le matériel fonctionne d'après la spiritualité. À ce moment-là, la femme doit aller au mikvé, c'est beaucoup plus compliqué tout le système de purification. Les femmes qui sont intéressées se renseigneront dans tous les livres et moyens de renseignement qu'il y a là-dessus. Elle fait des vérifications, toutes sortes de choses. Quand elle est enfin prête, elle trempe au mikvé. Et qu'est-ce qui se passe au mikvé? Elle se rebranche avec Hachem. Comment est-ce qu'on peut voir ça même dans les mots du mot mikvé? Enida. Il y a le nom de Dieu. Yud, ke, vav, ke, yud, et puis he, et puis vav, et puis he. On dit que le dernier he est en exil. C'est l'ashrin, la présence divine. C'est en fait des parties de nous-mêmes qui sont loin de nous. Quand quelqu'un a fait un péché, il a pris des parties de lui-même, qui sont des parties divines, et les a éloignées de lui-même, elles sont parties dans le côté négatif. Quand il fait tshuva, tashuv, hey, tshuva, se lit tashuv, hey, reviendra le hey, cette dernière lettre du nom de Dieu. Yud, ke, vav, ki, les premières lettres sont toujours à leur place. C'est la dernière lettre du nom de Dieu qu'on dit qu'elle est en exil, la shrina est en exil. Donc quand on fait des péchés, on prend ces étincelles de sainteté, qu'on appelle ça des entités de vie, des entités de sainteté, qui partent dans le côté négatif. Quand on fait tshuva, on les ramène. Quand une femme, elle est nida, nad, hey, le mot nida, c'est nad, nad signifie partir, même chose, nad, partir, en exil. Hey, le hey la quitte. Ça veut dire qu'elle, maintenant, elle est plus branchée au côté de potentiel non réalisé, donc mort, plutôt qu'à la source de vie. Mikvé, 4 lettres. Mem, kuf, vav, hei. Mem, c'est maim, c'est l'eau. Par l'eau, elle crée un cave. Cave, c'est un branchement. Cave téléphone, la ligne téléphonique, d'accord. Elle crée une ligne eau avec le hei. Elle se rebranche avec le hei. Quand on trempe dans le mikvé, on se branche avec Dieu. Donc, très grande chose. Maintenant, pourquoi? C'est quoi le mikvé? Le mikvé, ce n'est pas du tout une question de propreté. À l'époque, les hommes ou les femmes trempaient, mais les hommes aussi, à part aujourd'hui, j'ai dit que les hommes vont au mikvé uniquement pour se purifier d'une relation, d'une semence en vin, aussi avant Shabbat, avant les fêtes, il y en a qui vont tous les jours simplement pour un surplus de purification, mais tout ça c'est un surplus, c'est pas obligatoire. À l'époque où les lois de pureté et d'impureté étaient pratiquées, quelqu'un qui était impur finissait toujours son processus de pureté par le mikvé. Quelqu'un qui était impur parce qu'il a touché un mort, dans une chambre il y avait un mort, a touché quelqu'un qui a touché un mort, a touché un ustensile qui a touché un mort, ou elle a touché certains animaux qui sont impurs, ou etc. Il y a 11 sortes d'impuretés. S'il était rendu impur par un de ces types d'impuretés, le processus de pureté finissait toujours par le mikvé, pour les hommes aussi obligatoire. Il y a, la Gemara raconte qu'à l'époque, les gens trempaient dans le mikvé. Mais très souvent, c'est quoi un mikvé? C'était une grotte avec laquelle il y avait un peu d'eau. Et puis bon, l'eau n'était pas toujours... c'était aussi de l'eau qui stagne. Il y avait des fois des grottes où il y a l'eau qui passe. C'est une rivière, ça va. Souterraine ou pas souterraine, mais très souvent c'était en creuset, on avait un trou d'eau. Attends, le trou d'eau, au bout d'un moment, ça devient un peu verdâtre, enfin c'est pas très propre. Alors après le mikvé, ils se lavaient. Les sages d'Israël sont venus, ils ont interdit de se laver après le mikvé. Pourquoi? On dit les gens confondent, ils croient que ce qui les purifie, c'est la douche qu'ils font après. Après ils vont dire, alors, à quoi ça sert que je trempe dans l'eau toute sale? Je fais que la douche. Donc ils ont aboli. Aujourd'hui, pour les hommes, il n'y a pas de problème, tu peux prendre ta douche après le mikvé, les femmes non. Une femme qui va au mikvé, sauf que le mikvé des femmes sont très propres, parce que la femme, elle sort du mikvé, elle doit être propre, d'accord? Donc ils ont un mikvé super propre, vraiment c'est stérilisé, etc. Et après qu'elle sort du mikvé, elle ne peut plus prendre une douche, justement parce que cette interdiction de croire que les gens vont dire, après non, c'est la douche qui a purifié et pas le mikvé. Pourquoi je vous raconte tout cela? Faut pas confondre pureté et impureté avec saleté et propreté, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'une chose physique, on parle d'une chose qui est complètement métaphysique. L'anida est une des impuretés les plus graves qui existent. C'est pour cela qu'il y a vraiment une importance extrêmement grande à ce que les femmes aille au Mikvé. On peut dire que la pureté du peuple d'Israël passe par cela. La pérennité du peuple d'Israël. Il y a des gens, on parlait auparavant de la Shoah, d'accord, des femmes qui ont quitté, des mères qui ont quitté leur petite fille de 5 ans, et lui ont dit, quand tu seras grande, ma fille, tu ne peux pas comprendre ce que je dis, mais n'oublie pas le Mikvé. C'était le message qu'ils ont laissé à leur fille avant de partir pour que la pureté d'Israël continue dans Am Israël. Et Baruch HaShem, dans le monde Sfarad, c'est beaucoup plus répandu. Beaucoup de gens qui ne sont même pas trop pratiquants, néanmoins, ils ont reçu ça de façon extrêmement forte. Les femmes vont au Mikvé. C'est très dommage que ça se perde, parce que c'est beaucoup plus important que pas manger du porc, beaucoup plus important que Yom Kippour. Yom Kippour, manger du porc, manger du scorpion, qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'est-ce que c'est encore, donnez-moi des interdits graves, d'accord? C'est beaucoup, beaucoup moins grave que ne pas pratiquer l'Amida. C'est bien ça, d'après la Torah, si un couple, une femme ne veut pas protéger l'anita ou le mari ne veut pas que sa femme aille au mikvé, ils doivent divorcer. C'est le seul cas où on dit divorce. Elle veut partir maintenant, je ne sais pas moi, aller à Ibiza, manger des coquillages avec des poulpes toute la journée, dans une plage de nudistes. Ok, c'est pas génial, mais on ne va pas divorcer pour ça. Elle ne veut pas faire Shabbat, pas besoin de divorcer. Elle veut manger du porc, tout ce que vous voulez. La seule raison qui peut légitimer un divorce, c'est qu'elle ne veut pas faire la Nida. Ou il ne veut pas faire la Nida. C'est plus les hommes qui sont contre, parce qu'il y a une certaine période d'abstinence. Rabbi Meir a dit, combien est heureux le couple juif qui, une fois par mois, a un mariage à la maison. Après la période d'abstinence, la jonction physique de l'homme et la femme après cela est extrêmement grande, comme un mariage. Les grands psychologues américains, j'oublie leur nom, Johnson et un autre, disaient aux couples qui ont des problèmes de pratiquer les lois de séparation du couple juif dans tous les petits détails. Tous les petits détails, ça veut dire, passe-moi le feutre ici, est-ce que j'ai le droit de donner un feutre à une femme?
Non. Ben, oui.
Oui, oui, sans aucun problème.
Mais c'est permis. Ta femme Nida, non.
Mais ma femme, quand elle dit là, non. Je pose, elle le prend. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait un éloignement extrêmement grand. Et quand tu prends le feutre là, on se sent là comme ça. On veut pas, même ça on veut pas. Même ça on veut pas. Alors quand il y a un retour après, c'est un mariage.
Et au niveau des brachot, quand on est au mikvé, on doit dire des brachot.
Aucune bracha, rien du tout.
Même bon. La femme.
Alors c'est. Ah la femme, c'est la femme, oui, la femme, la femme, oui, la femme, elle doit faire une bracha. Alors, il est bien de se tromper. Une fois, ça suffit. C'est bien de se tromper trois fois. Les kavanot du mikvé. Vous voulez un peu des kavanot, les pensées à avoir au mikvé. La première pensée à avoir quand on va au mikvé, nécessaire, c'est on se purifie. OK? Ça, c'est l'ABC. Quelqu'un qui va prendre une bonne douche, il faut penser qu'on se purifie, c'est ce qui purifie le plus. Ensuite, on va aller du facile au plus compliqué. On va faire une tevila. Tevila, n'est-ce pas? Tevila, c'est une fille trempée. Tevila, ce sont, si on permute les lettres, c'est Taval, Yud et puis Hey. Yud et Hey sont les premières lettres du nom de Dieu. Taval, tu trempes dans Yud Ke, dans les deux, dans Hachem. Ah, j'ai oublié d'expliquer qu'est-ce que c'est le Mikvé. Le Mikvé, ce n'est pas de l'eau. Tout simplement, c'est de l'eau. On appelle ça l'eau de Bereshit. C'est de l'eau qui n'a pas été puisée par une main humaine. On fait des conduits dans les murs même de la maison, pas au moyen de tuyaux. Moyen on creuse dans le ciment que l'eau puisse arriver, mais qu'il n'y ait pas d'ustensile. Si ça se touche à un ustensile, alors c'est pas valable. C'est donc de l'eau extrêmement pure, de pluie. On appelle ça les eaux de Bereshit. D'ailleurs, je vais passer dans le temps. Bon, peut-être je vais donner aussi après, si j'ai le temps de donner cette pensée kabbalistique à avoir quand on va au mikvé, il y a un des noms qui sort là-bas, c'est l'Eda. L'Eda signifie naissance, c'est une renaissance. Comme le monde est créé dans Bereshit, on est recréé à Bereshit. Alors, première pensée qu'il faut avoir, qui est bonne à avoir, c'est la Tvila, Taval, Ka. Ensuite, Batel, c'est le même Tvila, une autre permutation, Batel, je m'annule devant Dieu. Annulation, arriver à s'annuler, à être extrêmement humble. Je suis rien de rien, de rien, de rien, de rien. Trop Mikvé, ça te purifie. Ensuite, Mikvé, comment vous expliquez cela? Un des noms les plus saints d'Hachem, lorsque mon cher Rabbeinu, il demande à Dieu, quand je vais aller maintenant voir le peuple d'Israël, en disant que tu m'as envoyé, ils vont me dire, qui t'a envoyé? Dieu lui dit, tu leur diras, Eye Asher Heye t'a envoyé. Ce mot-là qu'on dit, Eheke, mais en fait, il s'écrit Aleph, Hey, Yud et puis Hey. D'accord? Eheke. Eheke, un nom d'Hachem extrêmement haut. Maintenant, vous savez qu'on peut en hébreu, les lettres, ce n'est pas une expression d'un son. En français, A, B, C, D, c'est l'expression d'un son. Les lettres en hébreu, elles ont un nom. A, c'est Aleph, B, c'est Bet, Dalet, D, Gimel, etc. Les lettres qui forment le nom Eke, c'est Aleph, et puis Hey, et puis Yud, et puis Hey. Donc je peux écrire ce nom comme ça, Aleph, Aleph Lavmet P, Aleph. Après Hey, je l'écris Hey, Hey. Vous imaginez, il faut imaginer ça. Dans le Migvé, tu trempes, tu penses Aleph, après Hey, Hey, après, il faut toujours après Yud, Yud Vav Dalet, après Hey, Hey. Combien ça vaut valeur numérique ? 151, valeur numérique du mot Migvé. Donc tu trempes dans ce nom de Dieu. C'est une très bonne sgoula. Oui. Tu penses le nom Eke, mais tu le développes. Aleph, tu le vois Aleph, Aleph Lamed P. Hey, tu l'imagines Hey Hey. Yud, comment t'écris Yud? Non? Comment t'écris Yud? Yud, Yud, Yud. Hey. Hey, 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 Yud ou hey, hey, là tu feras hey, hey. On appelle ce nom le nom Kanna, Kanna c'est la valeur numérique 151. Quand tu tombes dans le mikvé, tu penses ce nom-là dans l'eau, d'accord, il faut tenir le coup, Aleph, hey, et puis Yud, et puis hey, tu trempes dans le mikvé, valeur numérique mikvé.
Ça sort une fois ou on pense une fois à Aleph, on pense...
Non, une fois tout. Et plus, tu rajoutes encore dans la même trempette, c'est pas obligatoire, tu fais en deux trompettes.
Tu fais
de la vie. Ça va vite au bout d'un moment. Bon, c'est les choses qui vont vite. Faut voir, tric, Aleph, Hey, et puis Yud, et puis Hey. Attention, faut dire et puis, hein, attention. Aleph, Aleph Lamed Pe. Hey, Hey, Hey. Yud, Yud Vav Daled.
Faut dire ça dans l'eau ?
Non, tu dis pas, tu imagines, tu penses. Après, tu gardes la feuille précieusement, elle est kadosh la feuille après. Hey, Hey. À la fin, Hey, Hey. C'est bon ? 151. Maintenant, Kaas, la colère, valeur numérique 150. Avec le kolel, le mot lui-même, 151. Plus 1, 151. Gematria, mikvé. D'ailleurs, quelqu'un qui est très en colère, c'est bien de tremper 151 fois dans le mikvé. C'est très facile à faire, ça prend une minute.
Deux minutes. Tu mets sous l'eau et tu fais...
Non.
Ou tu touches un truc.
Ah, bah, on peut sortir que la main.
Pas, voilà, ouais, même ouais. Pas, même le doigt, tu peux sortir.
Si on se met sous l'eau,
tu fais sous l'eau, tu fais comme ça.
Tu prends. Oui, mais c'est la tête, le
gars. 5, 6, 7, 8. Non, ça ne fait rien du tout. Tac, 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 tac.
Après, il y en a un qui fait
ça. Mais bien sûr. Bien sûr.
Non, tu vois, il fait ça. Il y en a un qui fait ça.
Tu as fait 150.
Il se met sous l'eau, il fait ça.
Au lieu de monter. Au lieu de monter avec la tête sans cesse, monter les 150, ça c'est fatigant, mais comme c'est ça, rapide, c'est super rapide.
C'est si on s'accroche au tuyau qu'il y a dans l'eau.
Non, pas du tout. Vu qu'il est mouillé, t'es mouillé, c'est rien. Non.
Ah bon ?
Non, c'est vrai que si on a un cheveu dehors,
il ne faut pas qu'il y ait de.
Pas mal, il ne faut pas qu'il y ait un cheveu dehors. Un cheveu dehors, ça ne va pas. C'est pour ça qu'a priori, on ne veut pas que les femmes trempent au mikvé. Des fois, les femmes partent maintenant à Pessah. Elles vont, je ne sais pas moi, à la Costa Rica, en Espagne. Il y a un mikvé là-bas, rien du tout, pas de mikvé. Elles vont dans la mer. C'est un gros problème parce qu'elles doivent tremper le soir. Tremper dans le soir dans la mer.
Elle ne peut pas se tremper la journée ?
Non.
Pourquoi ?
Parce qu'on a peur que. Pour des raisons, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. En deux mots, on ne peut pas, c'est interdit. D'accord ? On trempe le soir. Maintenant, le soir, la nuit, alors si la mer, elle est d'huile, ça va, ça va. Et encore ! Parce qu'elle ne voit rien du tout, c'est tout noir, d'accord ? Elle trempe, on ne veut pas, d'habitude, on interdit, mais s'il n'y a pas le choix, on permet. Mais a priori, on interdit. Pourquoi ? Parce que si elle trempe vite comme ça, puis il y a un cheveu qui reste dehors, c'est pas valable. Elle n'est pas trempée. Voilà. Donc il faut tremper bien dans l'eau, elle voit rien du tout. D'accord, c'est super. Alors s'il y a des vagues, on n'en parle pas. D'accord. Mais néanmoins, bon, si on n'a pas le choix, on peut tromper dans la mer. Pourquoi je dis qu'un cheveu, c'est important.
Quand on met dedans la mer, est-ce que ça marche?
C'est bon. L'eau passe, c'est valable.
C'est valable.
Pas pour la femme, pas pour la femme, pour l'homme.
Tu fais un mikvé en maillot alors.
Tu peux, c'est bien, tu lâches un peu le maillot. C'est super. L'eau, elle passe, non? T'es mouillé. Voilà, ça va, c'est bon. C'est tellement grave qu'on veut que ce soit vraiment top.
Mieux
c'est tout nu, bien sûr tout nu.
Une femme qui, par exemple, il y a eu un mois dans l'année où elle n'a pas fait le mikvé, et ce mois-là, elle tombe enceinte. Le fils,
il est bel Anida. Il est bel Anida. Fils de Nida.
C'est très grave.
Écoute, aujourd'hui, il y en a beaucoup, même parmi nous. Voilà. Tu vois que c'est des gens très bien. Je connais des Ben Anida qui sont venus des grands Tamil Hachamim. Mais il faut éviter.
Comment on fait pour garder un sérieux?
Pas ça, mais genre, je sais pas, comme vous avez dit, il faut avoir la kavana du nom de Dieu et ça. Alors que chez nous, il y a des gens qui sont. Ils sont nus, etc. C'est dur.
Au bout
d'un moment, tu fais
même
plus attention.
C'est dur d'un moment.
Au bout d'un moment,
tu penses au nom de Dieu alors qu'à côté de nous, il y a quelqu'un qui
est. Ça, tu peux. Faut pas le dire. Tu peux penser. La Torah interdit de dire des paroles de Torah devant nudité, mais pas de penser. Penser, tu peux penser. Allez, dernier nom que je vous donne maintenant. Vous faites un ihoud. Un ihoud, c'est une union entre deux noms de Dieu. Eheke, donc Aleph, Hey, et puis Yud, et puis Hey. Et un autre nom de Dieu que vous pouvez voir dans. On le voit où, donc quand on sort le Sefer Torah à Rosh Hashanah à Kippour, on cite ce nom-là. Aleph, Lamed et puis Daled. Il ne faut pas le dire. Aleph et puis Lamed et puis Daled. Maintenant, vous faites une imbrication. Si vous faites les lettres en deux mots, Aleph, Aleph, Hey, ensuite Lamed, Yud, Daled, Hey, Leda. Aleph, Aleph, Hey, ensuite Lamed, Yud, Daled, Hey. Bon, ça c'est pour les pros et pour Shabbat, ça c'est une autre affaire. Baruch Adonai, Oman Vamed.